Chapitre 7. Otto Mühlbach, n'ayant opposé aucune objection au désir de sa nièce, celle-ci, deux jours plus tard, revêtait la blouse blanche et venait se mettre à la disposition des infirmières. Madame Stillmann, une grosse hanovrienne, souriante et loquace, l'avait accueillie avec empressement. Mademoiselle Frida se montrait beaucoup plus réservée. Pas très jeune, pas très belle, mais ayant beaucoup de prétentions, elle ne voyait pas d'un œil bienveillant cette aide trop jolie et française par-dessus le marché. Les blessés n'avaient de regard que pour elle. Cependant, il n'y avait pas moyen de l'accuser de coquetterie. Chargée par Madame Stillmann de porter les repas, les potions, les boissons rafraîchissantes, elle s'acquittait de sa tâche avec soin, bonne et compatissante toujours, mais gardant une réserve qui faisait enrager Mademoiselle Frida. « Voyez-vous cette péronnelle qui fait sa princesse ? Et prenez bien garde, Madame Stillmann, qu'elle ne donne pas double ration à ses compatriotes. C'est pour eux tous les sourires, toutes les attentions de cette jeune personne. De fait, si Florita soignait avec conscience et pitié les blessés ennemis, elle mettait une douceur et un zèle tout particulier à s'occuper des Français. Ceux-ci montraient une véritable joie quand ils la voyaient apparaître, souriant pour leur donner du courage, si délicieusement jolie dans son costume blanc. Et une lueur radieuse brillait chaque fois dans les prunelles bleues du petit volontaire Antoine Barbour. Il lui avait raconté son histoire. Son père, bon ouvrier, était mort de bonne heure. Sa mère s'était remariée. Antoine et ses deux sœurs, mal vues par le beau-père, s'élevèrent un peu à leur guise. Au moment de la guerre, le jeune homme qui venait d'atteindre 18 ans s'engagea. Les deux sœurs étaient restées à Paris. Ouvrières de mode, elles chômaient depuis des mois. Et Antoine s'inquiétait à leur sujet. Si au moins je pouvais leur faire tenir un petit mot pour qu'elles sachent ce que je suis devenue. Donnez-moi toujours leur adresse au cas où je trouverais une occasion. Et elle inscrivit sur un calepin sous la dictée du jeune soldat. Par lui, par ses compagnons, elle apprenait ce qui s'était passé du côté français depuis le début des hostilités, ce qu'elle n'avait pu que deviner à travers les mensonges allemands. Mais ces conversations, elle ne les avait que par bribes, afin de ne pas éveiller la défiance des infirmières, de cette Frida surtout qu'elle sentait hostile. Barbou, un jour, en lui parlant de la dernière bataille à laquelle il avait pris part, celle au cours de laquelle il avait été blessé et fait prisonnier, dit avec enthousiasme « Nous avions un capitaine épatant. Ce qu'il nous emballait, c'est rien de le dire, et il nous encourageait si bien. Ah, on en a démoli des boches avec nos mitrailleuses sous son commandement. Pourvu que les sales bêtes ne nous l'aient pas tué, notre capitaine de Pinvalas. » Florita eut un vif mouvement. « Vous dites ? De Pinvalas ? Oui, mademoiselle, est-ce que vous connaissez ? » « Je connaissais un lieutenant de Pinvalas, mon cousin, mais il était dans les dragons. » « Eh ben, alors c'est ça. Notre capitaine était dans la cavalerie et il a demandé à changer. Alors on l'a mis aux mitrailleuses. Ah, pour un brave, c'en est un, mademoiselle. Il a eu déjà au moins 2 citations, et il en mériterait bien 12. » Vrai, vous pouvez être fière de votre cousin, mademoiselle, car c'est un chic type pour lequel nous nous serions fait tous tuer. » Florita frémissait d'émotion. Elle demanda. Alors il n'avait encore rien eu depuis le début de la guerre. Pas de blessure. Si, mademoiselle, quand il était au dragon, à ce qu'il paraît. Mais ce n'était pas grave, et il est revenu bien vite au front. Un poids était enlevé du cœur de Florita. Alain vivait encore, au moment où ce soldat avait été blessé 3 semaines auparavant. Et quel réconfort de pouvoir en parler avec ce bon petit Barbou qui l'aimait et l'admirait tant. Oh oui, elle était fière de lui, son Alain bien-aimé, qui unissait la bonté et le dévouement pour ses hommes à la plus intrépide bravoure et à toutes les qualités de chef. Si Dieu permettait qu'ils fussent unis un jour, quel noble orgueil se mêlerait à son amour pour lui. Parce qu'il avait été un des soldats d'Alain, parce que, aussi, il était le plus malade des 5 blessés français, Florita entourait Barbou de plus d'attention. Mademoiselle Frida n'osait rien dire. Cette infirmière bénévole était la nièce de M. Mühlbach, qui semblait un personnage important, à en juger par les salamalecs du médecin à son égard. Mais elle déversait sa colère dans l'oreille de Madame Stillmann, qui d'ailleurs ne l'écoutait qu'à moitié. « C'est honteux de ne s'occuper que de ces Français, alors que nous en avons de 6 malades parmi les nôtres. Mais non, Frida, elle s'occupe aussi des nôtres. Et il la trouve très douce, très bonne. Une hypocrite, si elle pouvait les étrangler tous. » Et Frida s'éloignait furieuse. Elle s'était réservé le soin des deux officiers qui occupaient une petite pièce près du grand salon, l'ancien fumoir de Maurice de Ronchet. L'un d'eux était très mal et mourut 4 jours après les débuts de Florita à l'ambulance. On conduisit sa dépouille mortelle au cimetière du village. Frida, comme son infirmière, était au nombre de ceux qui l'accompagnaient. Madame Stillman restait seule avec Florita. Et comme, pendant qu'elle aidait le major à un pansement, on sonnait de la chambre des officiers, elle dit à mademoiselle de Valserre « Vous seriez bien aimable d'aller demander au lieutenant ce qu'il désire, mademoiselle. » Florita, quelle que fût sa répugnance à s'occuper, fût-ce passagèrement, de ses officiers allemands, n'osa refuser puisqu'il s'agissait d'un blessé. Elle se dirigea vers la petite pièce, ouvrit la porte et s'avança de quelques pas en demandant « Que désirez-vous, monsieur ?» Une voix rogue s'éleva. « Eh, qu'on me donne mon grog, je l'attends !» L'officier s'interrompit, une soudaine lueur dans son œil unique, l'autre était caché par un bandeau. Et Florita s'immobilisait, le sang aux joues, toute frémissante de pénible émotion, car en dépit du changement survenu à cette physionomie, elle reconnaissait le baron de Reichensfeld. Ce fut lui qui reprit d'abord sa présence d'esprit. « Mademoiselle de Valserre, quelle bonne surprise vous me faites! Je savais bien que vous étiez ici avec madame Mulbart, mais je n'osais espérer que vous me feriez l'amabilité de venir me voir. » Elle riposta, hautaine et froide. « Je ne viens pas vous voir, monsieur. Je viens simplement m'informer près d'un blessé ce qu'il désire. Car moi, j'ignorais que vous fussiez ici. » Il dit d'un ton de raillerie qui cachait mal sa colère. « Allons, vous tenez à m'enlever mes illusions. C'est très mal à l'égard d'un homme qui souffre et qui aurait besoin d'être réconforté. » Elle dit avec la même froideur tranquille « Je vais prévenir madame Stillman pour votre grog. » Il eut une sorte de ricanement. « Mon grog, je m'en passerais volontiers si je pouvais contempler à mon aise votre délicieux visage. Allons, ne fuyez pas comme cela. Écoutez, je puis vous donner des nouvelles de votre fiancé. J'ai été son prisonnier pendant quelques heures. Ah ah, cela vous intéresse ?» Florita dit avec défiance « Comment le connaissez-vous » « Parce que je l'ai vu un jour avec vous, belle Florita, et je l'ai dès lors détesté aussitôt. » « Cela ne m'étonne pas de vous. » « Et oui, si le lieutenant de Pinvalas était tombé entre mes mains, je n'aurais probablement pas manqué de profiter d'une si belle occasion pour me débarrasser d'un rival. » Florita eut une exclamation d'horreur. « C'est infâme, et vous osez me dire cela ?» Reichensfeld eut un sourire cynique. « Mais oui, une autre que vous serait flattée d'inspirer une telle passion de... » Elle l'interrompit, une flamme d'indignation dans les yeux. « Vous êtes un misérable. » Je vous déteste et vous méprise du plus profond de mon âme. » Le baron se redressa dans un sursaut de colère. Avec son visage contracté et son œil plein de haine, il était effrayant. « Si vous ne rétractez pas cette parole, malheur à vous. » « La rétracter? Vous ne me connaissez pas. Je suis d'une race courageuse et loyale qui ne plie pas devant les menaces. Vous, vous êtes un bandit. Déjà vous me l'aviez prouvé. Le mépris le plus profond, voilà bien tout ce que vous méritez. » Et, tournant les talons, la jeune fille sortit de la pièce tandis qu'une voix rauque proférait « Prends garde à toi, française, et à ton Pinvalas, si jamais je le trouve sur mon chemin. » Florita, quelque peu bouleversée par cette scène, alla rendre compte à madame Stillman du désir exprimé par l'officier. Comme le major, à ce moment-là, se trouvait un peu éloigné, l'infirmière grommela « Il est exigeant, ce lieutenant, c'est incroyable, il faudrait toujours le servir à la minute. » Puis tout haut, elle ajouta « Puisque Frida n'est pas là, voudriez-vous lui porter son grog, mademoiselle ?» Mais Florita dit fermement « Non, madame, je ne le puis. À tout autre de vos blessés, oui, mais pas au lieutenant de Reichensfeld. Comme mademoiselle Frida rentrera dans peu de temps, elle le servira, ainsi qu'elle en a coutume. » Madame Stillman la regarda en écarquillant les yeux. « Mais, mademoiselle, une infirmière n'a pas à choisir, elle doit soigner indifféremment. S'il s'agissait de soins indispensables, oui. » Je passerai sur la répugnance que m'inspire monsieur de Reichensfeld, moralement parlant. » Le major, un gros petit homme chauve, d'une 40aine d'années, qui avait pour Florita de fulgurants regards d'admiration, intervint avec vivacité. « Mademoiselle de Valserre a raison. Elle est trop jeune pour s'occuper indifféremment de n'importe qui. Mademoiselle Frida servira tout à l'heure le lieutenant. Un malade pas commode, entre parenthèses. Il est vrai qu'il est bien mal loti. » Mais il s'en sortira tout de même, avec une jambe et un œil en moins. » Florita, encore toute frémissante d'émotion, alla voir ses blessés français. Le petit barbou s'en allait doucement. Il se rendait compte de son état, et, aidé par sa jeune infirmière, se préparait à la mort avec une pieuse résignation. Il disait à Florita, « Je voudrais seulement être sûre que mes sœurs ne sont pas trop malheureuses, qu'elles ont de quoi manger, du moins. Hélas, mon pauvre ami, pour le moment, nous ne pouvons les voir. Mais dès que je serai libre, j'irai les voir, et je vous promets qu'alors elles ne manqueront de rien. » Le petit soldat balbutiait, avec un regard d'ardente reconnaissance. « Oh, mademoiselle, vous êtes aussi bonne que votre cousin, mon cher capitaine. » Cette liberté dont parlait Florita à son protégé, elle n'en voyait pas poindre l'aurore. Ainsi que l'avait dit Mulbach, une évasion, dans les circonstances actuelles, semblait impossible pour une jeune fille seule, ne connaissant pas le pays. En montant à midi pour déjeuner avec sa tante, Florita trouva celle-ci plus fatiguée que de coutume, et refusant même de se mettre à table. La voyant dans cet état, la jeune fille s'abstint de lui parler de Reichensfeld, comme elle avait résolu de le faire d'abord, car elle se demandait pourquoi on lui avait caché la présence du baron à Vanel. Était-ce un traquenard machiné entre l'officier allemand et Mulbach? Et en ce cas, Pepita était-elle prévenue? Quelle chose pénible pour une âme droite et délicate comme celle de Florita d'avoir à douter même de cette tante qu'elle avait aimée, à l'affection de laquelle si longtemps elle avait cru. Mais elle la voyait si étrange depuis quelque temps, si froide, et comme cherchant à s'éloigner d'elle. Cependant, Florita, dominant ses sentiments secrets à son égard, continuait de lui témoigner une calme sollicitude dès qu'il s'agissait de sa santé. Et quand, dans l'après-midi de ce même jour, Anna vint la chercher en disant que madame avait une syncope, elle accourut aussitôt, émue, inquiète, en dépit de tout, car cette femme était sa plus proche parente. Cette syncope marquait le début d'une aggravation dans l'état de madame Mulbach. Le médecin ne cacha pas à Otto que sa femme était perdue. Elle peut vivre un mois, ou trois, ou seulement quelques semaines, ou même quelques jours, si l'embolie survient. Mulbach se montra sincèrement affecté. Il aimait sa femme, et en outre, cet instrument si docile lui manquerait beaucoup. Quant à Florita, quand elle connut le diagnostic, sa peine fut réelle. De plus, elle éprouvait une vive angoisse à l'idée que d'un jour à l'autre, elle pouvait se trouver seule, livrée à l'autorité de Mulbach, sans la protection de sa tante, qui, toute faible qu'elle fût, représentait encore un appui, une défense. Pour soigner Pepita, elle dut un peu délaisser les blessés. Néanmoins, chaque après-midi, elle allait voir les Français. Et elle se trouvait là quand, trois jours après la syncope de madame Mulbach, Barbou rendit paisiblement le dernier soupir, assisté du vieux curé qui, lui aussi, avait été une victime des Allemands. Florita ferma pieusement les yeux du jeune mort, dont le dernier regard avait été pour elle. Puis, profondément émue, elle retourna près de sa tante. Elle y trouva Mulbach qui venait d'arriver. Il apportait la nouvelle de sa nomination à un poste d'intendance à Cologne. « Dès que tu seras mieux, tu m'y rejoindras, » disait-il à sa femme. « Naturellement, tu amèneras ta nièce, et je vais m'arranger pour qu'on envoie le baron dans une ambulance de cette ville. Quoique furieux contre elle à la suite de l'entretien orageux qu'ils ont eu ensemble l'autre jour, il est plus épris que jamais. Florita, je te le prédis, ma chère, le mènera par le bout du nez, cet orgueilleux baron. » Pepita, qui écoutait son mari, les yeux mi-clos, avec des tressaillements sur son visage d'une pâleur presque livide, souleva les paupières. « Otto, il faut renoncer à cela. Jamais Florita, telle que je la connais, ne deviendra la femme de cet homme. Nous verrons bien. » Madame Mulbach mit sa main fiévreuse sur celle de son mari. Dans ses yeux noirs passait une tragique lueur d'angoisse et de supplication. « Je vais peut-être mourir bientôt, mon ami. » Il l'interrompit violemment. « Allons, tais-toi. Quelle idée te fais-tu là, chère ?» Elle secoua la tête. Je sens que je suis profondément atteinte. C'est peut-être une question de jour. Laisse-moi parler. Je veux que tu me fasses deux promesses. C'est que jamais tu ne pèseras sur la volonté de Florita pour lui faire épouser monsieur de Reichensfeld. Puis aussi, que tu la feras retourner en France dès que possible, avec ceux des Français que le gouvernement impérial autorise à quitter les pays envahis. Il lui tapota la main. Crois-tu donc que je veuille faire son malheur à cette belle Florie? J'ai conscience, au contraire, de m'être toujours montré un tuteur dévoué à ses intérêts. Sous mon administration, sa fortune a augmenté d'un tiers. Il ne s'agit pas d'argent, mais il ne faut pas l'obliger à un mariage odieux, ni la retenir, surtout moi disparue, loin de ceux qu'elle aime, promets-moi, Otto. Eh bien oui, je promets, cher ami, pour te tranquilliser. Là, es-tu contente maintenant ?
Oui.
Mais l'expression de sa physionomie ne dénotait pas qu'elle fût pleinement rassurée. Elle aurait constaté qu'elle n'avait pas tort si elle avait pu entendre Mulbach causer le soir de ce même jour avec Reichensfeld, qu'il était allé voir, comme il en avait coutume, à chacune de ses visites au château. Dans son état de santé, je ne pouvais la contrarier, disait-il, tandis que le baron approuvait d'un signe de tête. Mais naturellement, cela ne m'engage à rien. Friedrich de Reichensfeld dit avec un sourire cynique. Les promesses sont faites pour être violées, cela est vrai pour les individus comme pour les nations. Donc, en aucun cas, il n'y aura rien de changé à nos conventions, monsieur le baron. Dès que vous serez à peu près rétabli, Florita, de gré ou de force, deviendra baronne de Reichensfeld. De votre côté, vous lui reconnaîtrez une somme de 200 000 marks, et vous me versez 100 000 marks en reconnaissance du service que je vous rends. C'est cela, Mulbach. Ainsi donc, vous allez voir à me faire transporter à Cologne. Je ferai du moins tout mon possible, mais rien ne presse, car il faut que ma femme soit un peu rétablie pour quitter Vanel. Là-bas, quand nous y serons installés, et dès qu'on vous permettra de sortir, vous viendrez nous voir, discrètement d'abord, puis de plus en plus souvent. Vous feindrez, pendant quelque temps, de ne pas vous occuper de Florita, de façon qu'elle croie vos idées changées à son sujet. Puis, la vue de votre mutilation, de votre œil perdu, l'impressionnera favorablement, car elle a l'âme sensible. Enfin, nous manœuvrerons le mieux possible pour qu'elle vous accepte de bon gré. Si nous ne réussissons pas, eh bien, nous verrons à employer d'autres moyens. » Le baron dit avec une lueur farouche dans sa prunelle bleue. « Tous les moyens, car je la veux, plus que jamais, parce que je lui ferai payer cher les insultes qu'elle a osé me lancer au visage. » Otto eut un léger sourire d'ironie. « Eh, elle ne sera pas toujours commode, cette charmante Florita. Elle possède une énergie peu commune. » « Je la materai, Mulbach, vous verrez cela. Je l'adore et je la hais à la fois. Je l'adore comme femme et je la hais comme française. Je voudrais la faire souffrir, la voir pantelante, implorant ma pitié, vaincue dans son orgueil. » Il parlait d'une voix sourde, tandis que son visage se contractait sous l'afflux de cette passion mêlée de haine qu'il avouait à son interlocuteur. Mulbach mit sa main sur l'épaule de l'officier. « Allons, calmez-vous. Quand elle sera votre femme, vous vous contenterez de l'aimer, en oubliant tout le reste, y compris son coup de revolver. Pour l'instant, ne troublez pas, par une agitation intempestive, votre guérison qui avance à grands pas. « Vous avez permission de vous lever dans quelques jours, m'a dit le major. « Oui, mais je ne suis guère pressé. Borgne et béquillard, quel sort pour un Reichensfeld !»« Ah, ces maudits Français !» Il tendit furieusement le poing. « Dire que ce sont les mitrailleuses de ce Pinvalas, de son fiancé, qui m'ont arrangé ainsi. C'est celui-là surtout que je hais furieusement. Si vous aviez vu la façon insultante dont il me regardait dès qu'il m'eut reconnu. Ah, c'est vous, monsieur de Reichensfeld, je vous ai bien cherché à Paris, naguère, mais puisque vous êtes mon prisonnier blessé en outre, je ne veux plus me souvenir de rien. » Et il donna l'ordre à deux ambulanciers de m'emporter vers les lignes françaises. Mais à ce moment, on vint l'avertir d'une nouvelle attaque de nos troupes. C'est alors que, par suite d'un léger recul des Français, je fus délivré, puis amené ici. « Eh bien, monsieur le baron, il me semble qu'il ne s'est pas mal conduit à votre égard, ce beau marquis de Pinvalas. Si vous aviez été à sa place... » Reichensfeld répondit par un ricanement au sourire sarcastique de son interlocuteur. « Oui, j'aurais bien voulu y être, Mulbach, car alors mademoiselle de Valser n'aurait plus de fiancée. Or, ce serait déjà un bon atout dans mon jeu, mais j'arriverai quand même au but avec votre aide, mon cher Mulbach. »